Game Radio donne la parole aux jeux vidéo et aux gamers. Cette émission est un podcast de la communauté Game Radio.
Salut à tous, c'est Nicolas et bienvenue dans l'épisode 9 de Culture Cube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu mythique du GameCube, un jeu emblématique du multijoueur comme l'était GoldenEye sur Nintendo 64, un jeu autour duquel se sont nouées et malheureusement dénouées des amitiés, la plus grosse vente du catalogue de la console. Bref, si vous avez suivi le récent live consacré aux 10 ans du GameCube, vous aurez compris que je parle de Super Smash Bros. Melee. La licence Super Smash Bros. Développée par HAL Laboratory, qui est entre parenthèses le développeur historique des Kirby, avait fait son apparition en 1999 sur une Nintendo 64 en fin de vie. Le principe est ultra simple, c'est un jeu de combat jouable jusqu'à 4 et dédié entièrement à la gloire de Nintendo, de ses jeux et de ses personnages cultes. Avec sa maniabilité accessible mais autorisant la subtilité, les items et les maps dynamisant les combats, Super Smash Bros. Avait agréablement surpris les joueurs autant que les critiques. Voulant faire du GameCube une console conviviale orientée vers le multijoueur, Nintendo a lancé le développement de Melee immédiatement après la sortie du premier épisode, afin que le jeu accompagne la sortie de la console. Le lancement étant prévu pour 2001, il restait très peu de temps à HAL Laboratory pour développer une suite. D'autant plus que l'objectif fixé était, en plus de conserver tous les atouts multijoueurs du jeu, d'en faire une vitrine technologique, notamment pour la scène d'introduction, l'animation des maps et les effets des items. Sorti quelques semaines après le GameCube, Melee est bâclé sur certains aspects comme la localisation ou le choix des personnages jouables, mais remporte son pari haut la main. Au niveau du gameplay, en fait, peu de choses ont changé depuis l'Opus 64, mais c'est tant mieux. La maniabilité est améliorée par le pad GameCube, qui est beaucoup plus ergonomique que celui de la Nintendo 64, mais le principe est quasi identique. Vous devez venir à bout d'adversaires sur des stages en side-scroller, et pour cela vous utilisez le stick pour marcher, courir et sauter, les gâchettes pour des actions défensives comme le bouclier ou les esquives, et enfin les boutons A et B combinés avec le stick pour attaquer. Le but est de frapper ses adversaires pour augmenter leur pourcentage de dégâts et les éjecter du stage. A première vue, tout ceci est extrêmement basique, peut-être même un peu trop. Pourtant, ce système se paie le luxe d'être à la fois accessible à tous et de permettre malgré tout de belles subtilités dans les combats. Cette subtilité se traduit avec un concept central, l'anticipation. A titre d'exemple, on peut se déplacer beaucoup plus librement que dans les versus fighting classiques, et l'anticipation des mouvements de vos adversaires devient donc primordiale. D'autant plus que, et c'est là tout le sel du jeu, des items apparaissent régulièrement et vous permettent de varier vos attaques et votre défense. Les stages ont souvent tendance à se transformer en cours de partie par ailleurs. Un autre exemple, j'ai un item en main, mon adversaire se trouve sur une plateforme qui bouge horizontalement, je peux anticiper les mouvements de la plateforme pour lancer mon item afin qu'il lui retombe sur le coin de la gueule au moment où il s'y attend le moins. Enfin, impossible de passer à côté des attaques smash qui donnent leur nom au jeu. En donnant un coup de rapide de stick dans une direction tout en appuyant sur A et en maintenant la position quelques secondes, votre personnage déclenche une attaque smash plus puissante qu'une attaque normale, mais qui vous rend vulnérable le temps de son chargement. Jusqu'ici, rien de révolutionnaire. Sauf que si on ajoute les éléments précédents, on se rend compte qu'encore une fois, il faut bien anticiper pour réussir à placer une attaque smash. Il est indispensable de développer des tactiques, comme par exemple faire monter les dégâts de son adversaire avec des attaques normales, puis utiliser un item pour le déséquilibrer et le faire valser dans les airs, et enfin l'attendre à la retombée pour l'éjecter avec une attaque smash bien timée. Quand je vous disais que c'était plus subtil que ça en avait l'air, je ne vous mentais pas. Sans compter qu'évidemment, il y a de nombreux personnages qui offrent une grande variété de styles de jeu. En effet, niveau contenu, le jeu est bien étoffé. On retrouve tous les combattants de l'épisode précédent, auxquels s'ajoutent 13 petits nouveaux, ce qui porte le total à 25 personnages jouables. Les arènes de combat sont nombreuses et variées, puisqu'elles sont inspirées des jeux dont sont tirés les personnages. Par ailleurs, il existe de nombreux modes de jeu solo et multi qui vous permettront de jouer comme bon vous semble. Globalement, l'intérêt de tout ce contenu est qu'il n'est pas accessible d'entrée, il faut le débloquer en réussissant certaines choses sous certaines conditions. Par exemple, pour débloquer le personnage Mr. Game & Watch, il faut terminer le mode classique avec les 24 autres personnages, ou encore, pour débloquer l'arène Brinstar qui est tirée des jeux Metroid, il faut avoir disputé 50 matchs multijoueurs. On ajoutera en plus le système de trophées qui consiste à remplir une collection des personnages et des items tirés des licences emblématiques de Big N, système qui ravira les collectionneurs et les adeptes de scoring. En bref, Melee vous offrira de nombreuses heures de fun si vous avez 4 manettes et des amis ou si vous aimez le scoring en solo. Visuellement, le titre offre un rendu et une fluidité impeccable. Passé la merveilleuse cinématique d'introduction, on tombe sur des menus un peu cheap, mais ensuite, une fois qu'on est dans le jeu, on ne trouve rien ou presque à redire. Les personnages sont détaillés, bien animés, les effets visuels sont convaincants, ça pète de partout sans aucune baisse de framerate, les arènes sont détaillées, plutôt jolies, et surtout vivantes et très animées. Bref, le résultat est plus que satisfaisant. Enfin, je terminerai par l'aspect sonore qui est lui aussi convaincant. Les musiques sont évidemment tirées des jeux Nintendo, même s'il y a quelques compositions originales, tout comme les bruitages des personnages, ce qui offre une très grande variété de styles. Tout le monde pourra y trouver son compte. J'aurais pu terminer ce podcast par une partie en direct, mais pour ça, il aurait fallu que j'aie sous la main 2 manettes supplémentaires et 3 amis pour faire une partie en diable. En effet, dans une partie de solo, il n'y a pas grand chose à commenter d'intéressant. Je vais donc plutôt terminer par une petite liste des défauts qui ont pu gêner les joueurs et les critiques. Certains ont pu regretter la trop grande nervosité des contrôles, ce qui n'est pas tout à fait faux. En fait, pour rendre le jeu encore plus speed et déjanté, les développeurs ont augmenté la vitesse par défaut des personnages. L'effet visuel est sympathique, mais il est vrai que certaines attaques partent tellement vite que les défenses prévues par le système de jeu, comme le bouclier qui s'active avec le bouton Z ou l'esquive avec le stick et une gâchette, mettent beaucoup trop de temps à sortir et sont donc inutiles. C'est d'ailleurs ce qui rebute souvent les néophytes quand ils jouent face à des joueurs confirmés. Ils ont la frustrante sensation de ne rien pouvoir faire pour se défendre un minimum face à un joueur qui prend plaisir à les massacrer. Quand je vous disais en introduction que des amitiés se sont cassées autour de ce jeu, ça n'est vraiment pas exagéré. C'est par exemple très proche de ce qu'on pouvait avoir dans Worms. J'ajouterai qu'un certain nombre de personnages sont redondants. Par exemple, Roy et Mars ont les mêmes coups, la seule légère différence étant leur vitesse et leur puissance. Même chose pour Fox et Falco, Link et Link enfant, Mario et Dr. Mario, et ainsi de suite. Enfin, le jeu étant sorti dans la précipitation, en dehors du Japon en tout cas, pour soutenir les ventes décevantes de la console, il subsiste des problèmes de localisation. La version française n'est par exemple que partiellement traduite. Alors d'accord, c'est un détail, et les nostalgiques pourront y voir un hommage à GoldenEye, mais pour une killer app, ça fait un peu désordre. Sur ce, je vous laisse, je vous remercie de m'avoir écouté, vous en êtes sans doute rendu compte, je suis un petit peu malade, je m'en excuse. quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt pour un troisième podcast qui sera lié plus ou moins à l'univers Mario. Ce sera Paper Mario, la porte millénaire. Salut à tous et à bientôt.
Game Radio donne la parole aux jeux vidéo et aux gamers. Cette émission est un podcast de la communauté Game Radio.